Bonjour, je vous propose un exposé sur l'histoire du calcul des probabilités et surtout leur première application à l'étude d'une maladie, à ce qu'on appellera plus tard l'épidémiologie. Alors l'histoire des probabilités, ça commence il y a longtemps, il y a d'anciennes traces de calcul, mais ça prend son essor avec la bourgeoisie, quand le commerce, notamment le commerce au long cours, arrive au premier plan et que les aléas des affaires de la bourgeoisie deviennent une préoccupation pour beaucoup de monde. Alors là, j'ai des images de commerce au long cours, qui évoquent le commerce au long cours, mais il y a beaucoup plus terre à terre, le problème des rentes viagères, par exemple. On obtient un bien, un capital, un bien immobilier, quelque chose immédiatement ou à terme, en échange d'une rente qu'on verse à la personne qui cède son bien. Et cette rente, on la verse jusqu'au décès du bénéficiaire. Donc on comprend que les banquiers, les bourgeois, moyens et grands qui préparaient ce type de contrat, avaient envie d'un moyen de savoir quelle longévité le bénéficiaire pouvait espérer avoir. Autre domaine où les probabilités vont aussi être mises à contribution et se développer, les jeux de hasard. Alors ça, c'est aussi après la Renaissance et pendant tout le siècle des Lumières. C'est un siècle où l'aristocratie, elle est en pleine décadence et elle passe ses soirées à s'obséder pour les jeux de cartes, les jeux de dés, où on parie des sommes folles. Ça occasionne tout un tas de problèmes de calcul de probabilité. Et un des problèmes célèbres, qui est célèbre parce que c'est un des premiers problèmes où la solution a été rédigée quasiment en termes modernes, c'est ce qu'on appelle le problème des parties. Alors qu'est-ce que c'est ce qu'on a appelé le problème des parties? Deux joueurs misent chacun une même somme d'argent et ils jouent en trois manches gagnantes. C'est-à-dire que le premier des deux joueurs qui remporte les deux manches remporte la partie et les deux mises. Le problème est le suivant. Imaginons que les joueurs commencent à jouer et puis la partie est interrompue avec des scores inégaux. Comment répartir les mises? Les premiers qui ont proposé une solution convaincante à ce problème, c'est Pierre de Fermat, qui était mathématicien, et un autre mathématicien, mais qui n'était pas que mathématicien, un certain Blaise Pascal. Ils ont proposé un calcul d'espérance de gain pour les deux joueurs à partir d'une situation comme celle qui est proposée ici. Alors, qu'est-ce que c'est l'espérance en probabilité? C'est un mot qui désigne une moyenne. L'espérance de gain pour un jeu de hasard, c'est la moyenne de gain à laquelle on peut s'attendre. Comment on la calcule? On fait un modèle de probabilité du jeu. On essaie de calculer la probabilité de chaque issue possible de la partie. Et après, on fait la moyenne du gain où chaque gain possible compte proportionnellement à sa probabilité d'arriver. Évidemment, c'est quelque chose qui intéresse surtout ceux qui organisent des jeux. Les gens qui conçoivent des machines à sous, la Française des jeux, ont envie de concevoir des jeux qui nous donnent envie de jouer, qui donnent l'impression qu'on peut gagner, qu'on a quand même, ou bien qu'on gagne un petit peu à chaque fois, qu'on ne perd pas tant que ça, alors que le gain moyen, ça va aller pour leur poche. Pour prendre des exemples, je vais d'abord donner des exemples de modèles de probabilité simples. Le tirage à pile ou face, chaque résultat pile ou face a une chance sur deux de survenir, on dit que la probabilité de chaque tirage est 1 sur 2, 0,5. Le dé, c'est pas beaucoup plus compliqué. Chaque numéro a une chance sur 6 d'arriver et donc chaque numéro a une probabilité de 1 sixième, 0,166. On peut s'attaquer à des tirages plus compliqués, mais donc on tire trois fois de suite à pile ou face et qu'on s'intéresse à la séquence dans l'ordre des trois résultats. Un petit aperçu montre qu'on a 8 possibilités. Donc, chaque tirage, par exemple le dernier, face, 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 aura une probabilité d'arrivée de 1 sur 8, 1 huitième, 0,125. Il y a un autre moyen de calculer cette probabilité. Pour un tirage face, 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 on peut dire qu'il y a une chance sur deux d'avoir face au premier coup. Si on a face au premier coup, on a de nouveau une chance sur deux d'avoir face au deuxième. Et enfin, si on a déjà ces deux chances, on a une chance sur deux d'avoir face au troisième. Quand on croise des événements comme ça en probabilité, le principe est qu'on multiplie les probabilités. Donc ça nous donne un demi fois un demi fois un demi. On retrouve le 1 huitième, le 0,125 de tout à l'heure. Cette idée de multiplier les probabilités, on va la retrouver tout à l'heure sur les populations. Maintenant qu'on a quelques exemples de modèles de probabilité, on peut montrer comment on peut calculer des espérances de gain. Mettons qu'on essaye de calculer l'espérance de gain à pile ou face quand ça rapporte 2 euros de faire face et qu'on perd quand on fait pile, bon, ça rapporte rien. Bah là, on voit ce que ça va être le gain moyen. Imaginez que vous tiriez 1000 fois à pile ou face. Vous voyez bien qu'une fois sur deux, à peu près, ça va faire face. Et donc, 1000 fois, il y aura à peu près 500 faces. Donc, vous aurez gagné 2 euros fois 500, 1000 euros. Donc, ça fait un gain moyen de 1 euro par coup sur 1000 coups. Et effectivement, l'espérance qu'on trouve, en calculant une fois pour toutes avec nos probabilités de 1,5, en calculant 1,5 fois 2 plus 1,5 fois 0, c'est 1 euro. Donc ça, c'est un théorème des probabilités qui date de l'époque du siècle des Lumières, de 1720, un théorème de Jacob Bernoulli, qui affirme que si on calcule une fois pour toutes l'espérance, on obtient la même valeur que si on joue un grand nombre de fois et qu'on fait la moyenne des gains. C'est ce qu'on appelle la loi des grands nombres. Un exemple plus compliqué, mettons qu'on gagne toujours en faisant face, mais qu'on a le droit à trois lancers. Donc on peut gagner en un coup, là il y a une chance sur deux de gagner en un coup, en deux coups, il faut faire pile et face, une chance sur quatre, en trois coups, et on peut aussi perdre. Et donc les deux dernières éventualités ont une probabilité de 1 sur 8 ou 0,125. Si le gain est toujours de 2 euros chaque fois qu'on fait face, la moyenne de gain ou l'espérance se calcule par la méthode que j'ai dite et donne 1,75 €, ce qui se comprend. Si on joue un grand nombre de fois, on aura gagné 2 euros à chaque coup, sauf éventuellement un cas sur 8 en moyenne, puisqu'il y a une probabilité de 1 huitième de faire 3 fois de suite pile. Et donc un cas sur 8 s'enlève d'un gain de 2 euros à chaque fois. Et 1 huitième de 2 euros, c'est 0,25. Ça fait bien 2 moins 0,25, 1,75 €. Si votre gain, il est différencié, 3 euros si vous faites en un coup, vous gagnez en un coup, 2 euros si vous gagnez en deux coups, 1 euro si vous gagnez en trois coups. L'espérance, par la même formule de calcul, va nous donner 2,125 €. Donc c'est un résultat qu'on retrouve par le calcul et qui nous ramène à ce que je disais tout à l'heure sur les machines à sous ou sur la Française des jeux. Imaginez un casino qui vous propose un jeu comme ça à 2,20 € la partie. La partie coûte 2,20 €, bah beaucoup de gens auront envie de jouer parce qu'on peut gagner 3 euros. Et puis si on ne gagne pas, la perte est limitée ou perdre beaucoup, perdre toute sa mise de 2,20 €, ça semble un peu lointain. Et donc un jeu comme ça, bien calculé, peut donner envie à beaucoup de gens de jouer, alors qu'en fait, le gain moyen que vous estimez d'avance par l'espérance, il est tout à fait positif pour l'organisateur et c'est lui qui rafle peu à peu beaucoup plus sur un grand nombre de joueurs et une grande durée. Alors, ce que j'ai raconté sur les jeux de hasard, c'était pour camper le décor un peu, mais les probabilités, ça va très vite s'appliquer aussi au calcul sur les populations. Et dès cette époque-là, dès les années 1700 à peu près, on va avoir des calculs qui se rapprochent de la notion moderne d'espérance de vie. Alors qu'est-ce que c'est l'espérance de vie? C'est l'âge, la longévité moyenne, pour par exemple l'espérance de vie en 2019, mettons, c'est la longévité moyenne qu'aurait une génération qui vivrait avec les conditions de mortalité de 2019. C'est-à-dire que c'est un indicateur non pas sur l'âge moyen des gens qui naissent en 2019, la longévité qu'ils peuvent espérer, parce que les conditions de mortalité vont changer au fil de leur vie. C'est pas non plus l'âge moyen de décès en 2019, parce que ça prend en compte que les gens qui meurent, pas l'ensemble de la société. C'est un indicateur plutôt de l'état sanitaire, social, médical, politique du pays dans lequel on fait le calcul. Donc c'est comme ça qu'on la calcule. On prend tous les gens qui devaient avoir 40 ans en 2019, par exemple, on regarde combien sont morts et on fait la proportion. Ça nous donne la probabilité de mourir en 2019, calculée après coup. Et on fait ça pour tous les âges, de 0 à 120 ans. Et on calcule l'espérance de vie par la même formule que tout à l'heure. Et ça vous donne l'âge moyen de décès qu'aurait toute une population qui vivrait toute sa vie avec les mêmes probabilités de mourir à chaque âge qu'en 2019. Alors le premier à avoir fait un calcul qui se rapproche de ça, qui n'est pas donc un âge moyen de décès à une année donnée, mais qui est essayé d'étudier une même génération et de voir sa longévité moyenne, c'est le savant anglais Edmund Halley. qui est célèbre pour avoir prouvé que les comètes étaient des corps en orbite périodique autour du Soleil, pour avoir étudié toutes les observations passées de comètes et avoir prévu, par exemple, le retour, 15 ans après sa mort, d'une comète qui est maintenant célèbre sous son nom. Donc, Halley, il a voulu étudier la longévité moyenne d'une même classe d'âge, et pour ça, il a été prendre les registres de naissance et de décès de la ville de Bray-le-Haut. C'est la ville qu'il avait trouvée en Europe, où les archives étaient accessibles et où il y avait le moins de mouvements, le moins d'émigration et d'immigration dans le siècle qui précédait. C'est pour ça qu'il a pu, en regardant les registres des décès et en les comparant aux registres des naissances pour ne sélectionner que les décès des gens qui étaient nés l'année qui l'intéressait, une centaine d'années avant, il a pu, se faire une idée assez exacte de la longévité de toute cette population. Et ça lui a donné cette table qu'on appelle la table de Halley, qui était un document donc qui a fait date, qui est un peu célèbre pour ça, ramené à une proportion par proportionnalité à 1000 individus. Il a comme ça, de manière assez lisible, l'état de sa génération au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, etc. Il a estimé qu'il s'agissait de 1300 nouveau-nés. C'est une estimation, car les décès des enfants de moins de 1 an n'étaient pas dans le registre des décès. Donc, il y a une mortalité infantile effroyable, bien sûr, et cette table, elle permettait de calculer l'espérance de vie, comme on dirait aujourd'hui, la longévité moyenne de cette population, mais aussi la longévité moyenne pour tous ceux qui ont plus de 20 ans, par exemple. L'espérance de vie à 20 ans, l'espérance de vie à 30 ans. Et elle était effectivement motivée par les demandes pour ce type d'études venaient de gens qui avaient des problèmes de rente viagère et de taux de rente viagère à calculer. Alors cette table, la table de Halley, elle allait bientôt servir à un calcul novateur pour l'étude d'une maladie. La maladie en question, c'est la variole. Donc la variole, c'était une maladie qui sévissait depuis l'Antiquité dans toute l'Europe, l'Asie, l'Afrique, qui était assez meurtrière et très contagieuse. Et elle sévissait aussi sur le continent américain. Elle a été introduite ou peut-être réintroduite, mais en tout cas, elle n'existait plus quand Christophe Colomb est arrivé là-bas. Et elle a frappé extrêmement durement les populations locales et a contribué à l'hécatombe abominable qu'ont connue les autochtones. Et même, dans la fin de cette histoire-là, les colons nord-américains l'ont même utilisée volontairement contre certaines populations d'Indiens d'Amérique du Nord. Voilà, alors c'était une maladie très contagieuse, souvent mortelle, mais quand elle ne tuait pas, elle laissait des traces, puisque les victimes voyaient pendant la phase aiguë de la maladie des pustules, des plaques se développer sur leur corps, des vésicules, et quand ils guérissaient, les cicatrices pouvaient les marquer à vie, c'était la petite vérole. On ne savait pas guérir la variole. Mais une pratique se diffusait lentement, une pratique apparue bien des siècles avant en Chine, qui consistait à inoculer à une personne non malade du pus prélevé sur des vésicules de quelqu'un atteint par une forme bénigne de la variole. Et on savait que les gens qui réchappaient à la variole étaient immunisés à vie, et de la même façon, ceux qui subissaient cette intervention étaient immunisés à vie. On appelait ça la variolisation ou l'inoculation. Ils étaient immunisés à vie s'ils n'en mouraient pas, parce que le fait d'estimer que c'était bien une forme affaiblie, bénigne de la variole qu'on inoculait, ça se faisait pas sans erreur, et il y avait un nombre très restreint, mais quand même pas nul de cas, où à travers l'inoculation, on faisait vraiment, on contaminait vraiment la personne avec la variole, elle développait la maladie et elle avait un certain risque d'en mourir. Alors cette technique, la variolisation, l'inoculation, arrive à Constantinople. Là, il y a des Européens. La femme de l'ambassadeur britannique la découvre, la fait pratiquer sur ses enfants et la ramène en Europe où elle milite pour, ainsi que d'autres personnes. Il commence à y avoir des campagnes pour l'inoculation générale. Et c'est là qu'un mathématicien, Daniel Bernoulli, décide de faire un calcul pour essayer de convaincre les gens du bénéfice de cette pratique. Alors Bernoulli, ça fait la deuxième fois que j'emploie ce nom-là. C'est toute une famille de mathématiciens. Il y a Nicolas, il y a ses fils Jacob, donc c'est celui de la loi des grands nombres dont j'ai parlé, et Jean Bernoulli. Et puis il y a plusieurs fils de Jean, dont Daniel Bernoulli, qui ont compté dans les mathématiques et dans les autres sciences tout au long de cette époque-là. Et Daniel, il entreprend un calcul pour montrer que si on éliminait la variole comme cause de décès, la population mourrait plus âgée, vivrait plus longtemps. Et donc pour faire ça, il part de la table de Halley et il veut faire un calcul sur combien il y a de morts de la variole dans la table de Halley. La table de Halley, elle nous permet un calcul d'espérance de vie. Et la table de Halley, si on peut isoler les morts de la variole dans la table de Halley, elle nous permet aussi de faire un calcul d'espérance de vie sur les autres, sur tous ceux qui sont morts d'une autre cause de décès, soit parce qu'ils n'ont jamais eu la variole, soit puisqu'ils l'ont eu mais ont été immunisés puisqu'ils n'y ont pas succombé. Donc, son problème, c'est ça. Parmi tous les décès comptabilisés dans la table de Halley, comment isoler ceux qui sont dus à la variole? Et pour faire ça, il a besoin d'un modèle de probabilité. Il faut savoir, parce qu'il n'y a pas de registre du tout qui peuvent lui faire faire un travail d'historien, donc il faut faire un travail de calcul, quel était le pourcentage de risque chaque année pour chaque individu d'avoir la variole, et du coup, combien parmi la table de Halley sont morts à cause de la variole, à combien on peut estimer ça? Donc, il fonde son calcul sur les chiffres abominables de l'époque. Dans certaines villes, il y avait une personne sur 15 qui était frappée chaque année de la variole. Dans d'autres, ça montait jusqu'à 1 sur 4 pour certaines années très épidémiques. Donc, lui, il prend un chiffre moyen. Il considère que chaque année, on a une chance sur 8 d'attraper la variole. Donc, la population, chaque année, il y a un huitième qui attrape la variole. Et que quand on a la variole, sur l'ensemble des gens qui ont la variole, il y en a un sur huit qui en meurt. Voilà. Donc, fort de ces hypothèses-là, de ce modèle-là, il reprend la table de Halley et il essaie d'estimer les morts de la variole. Donc, la première année, il y a 300 morts. Parmi eux, combien sont morts de la variole? Bah, sur 1300 nouveau-nés, il y en a 1 sur 8, c'est-à-dire à peu près 160 qui ont dû avoir la variole, et 1 sur 8 des 160, c'est-à-dire environ 20, qui ont dû en mourir. Sauf qu'on ne peut pas se contenter de ce calcul-là, parce que, évidemment, l'an d'après, il y aura toujours un risque de décès de 1 sur 64 de la variole, mais seulement sur les gens qui ne sont pas immunisés. Les gens qui sont immunisés, eux, n'ont plus de risque de décès. Donc, reprenons le total de cette population. La première année, il y en a 20 qui meurent de la variole, mais j'ai dit qu'il y en avait à peu près 160 qui devaient la rencontrer, développer la maladie. Il y en a donc 140 d'immunisés. Et c'est là où il va faire un calcul de produit de probabilité, où il va essayer pour estimer combien de gens vont être immunisés mais mourir à cause d'autres causes de décès. Donc il y a une certaine probabilité de mourir sur l'ensemble des 1280 qui ne sont pas morts de la variole, et combien vont survivre. Et ça lui donne, tout calcul fait, une répartition comme ça, avec à peu près 11% d'immunisés n'étant pas morts de la variole. Et donc sur 1000 survivants, 110 immunisés et 890 autres. Et il continue son calcul année après année, il aboutit à un moyen d'isoler dans toute la table de Halley les morts de la variole. Donc, il a isolé les morts de la variole dans la table de Halley. Ça lui donne son calcul d'espérance de vie. Et l'espérance de vie, toute cause de décès confondue, donc de toute la population, c'est 26 ans et 7 mois. C'est assez faible hein, par rapport aux chiffres qu'on connaît aujourd'hui. La mortalité infantile y compte pour beaucoup, bien sûr. Et l'espérance de vie sans variole, qui trouve, c'est 29 ans et 9 mois. Si personne meurt de la variole, la longévité moyenne, elle s'allonge de 3 ans et 2 mois. Alors Bernoulli, c'est que c'est un gars honnête, donc il milite pour l'inoculation, mais il veut pas qu'on lui dise tu négliges le risque. Donc il refait un calcul en tenant compte, imaginons qu'on fasse l'inoculation à toute la population, le petit risque dont j'ai parlé, combien de gens ça toucherait, parce que les gens qui mourraient tout de suite, on inocule à tout le monde, donc il y a des gens de 10 ans, 40 ans, 20 ans, etc., qui vont mourir, une petite proportion. Il estime ce risque à 1 sur 200. Il refait le calcul d'espérance de vie et il trouve une espérance de vie de 29 ans et 7 mois 29 ans et 7 mois, donc 3 ans par rapport à 26 ans et 7 mois, 3 ans d'allongement de l'espérance de vie si on fait l'inoculation à tout le monde. Alors, est-ce que ça a convaincu son calcul? Ben non, ça n'a pas convaincu. Il y a eu des détracteurs, y compris des scientifiques. Bernoulli a été violemment attaqué par un encyclopédiste et mathématicien qui s'appelle Jean d'Alembert. Du coup, il y a eu des controverses scientifiques, mais en fait, derrière les objections qu'on lui faisait, on lui disait que le risque était mal calculé, etc. Mais c'était plutôt un argument psychologique qu'il y avait derrière. C'est que, évidemment, quand vous dites à quelqu'un, ma pratique, elle va te préserver d'attraper la variole que tu aurais peut-être pu attraper avec un certain risque dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, et mais ma pratique, elle peut te tuer avec un risque de 1 sur 200, bah, le risque n'a pas le même poids quand il est immédiat que quand il est lointain. Donc, ça a motivé tout un tas de discussions. Certains voulaient même interdire la pratique. Il y a eu des débats dans tous les niveaux de discussion, dans les académies, les universités. Pour la petite histoire, je dirais que Louis XV est mort de la variole. Les Bourbons, c'était des rois qui étaient très très opposés à l'inoculation à la cour. Voilà, la famille était très opposée. Et Louis XV est mort dans une agonie douloureuse. Et du coup, Louis XVI, son petit-fils, qui était un opposant farouche à l'inoculation la veille, se l'est appliqué à lui-même à la surprise générale. Cela dit, ce n'est pas le calcul de Bernoulli qui a convaincu. 40 ans après, à peu près, Jenner diffuse une autre pratique qui est la vaccination. La vaccine, c'était une substance du pus tirée des vaches malades par une forme voisine de la variole. Mais cette variole des vaches n'était pas la variole humaine. Elle immunisait les gens quand on l'injectait aux gens. Sans aucun risque de contamination à la variole. Donc ça, c'était une pratique qui, du point de vue de ai-je un risque d'attraper la variole, était 100% sûre. Jenner, il développe ça à partir de 1799. Du coup, le travail de Bernoulli, c'est pas lui qui convainc la population et les pouvoirs publics. Mais son intérêt, c'est qu'il a montré comment faire les calculs. Il a montré comment, sur une maladie, dont on peut prévoir des paramètres, le nombre de chances qu'on a de tomber malade, etc., comment, on allait pouvoir calculer l'évolution de cette maladie avec le temps, le nombre de cas, d'une durée déterminée, etc., etc. Pour résumer un peu les calculs que j'ai expliqués tout à l'heure, imaginez de nouveau une maladie qui frappe en moyenne une personne sur 8 chaque année, vous pouvez calculer au bout d'un certain temps combien, quelle proportion de la population totale elle aura frappé. Au bout d'un an, elle aura frappé 1/8 des gens, mais elle aura laissé sain 7/8 des gens. Au bout de 2 ans, les gens frappés sera le 1/8 de la première année plus 1/8 des 7/8. Là, ça commence à être compliqué à écrire. Par contre, les gens qui restent sains, ce sera 7/8 des 7/8, 7/8 au carré, ça c'est plus simple à écrire. Au bout de 3 ans, le nombre de gens qui restent sains, ce sera 7/8 de ces 7/8 au carré de la deuxième année. Donc, 7/8 au cube, vous voyez que si on continue, on voit poindre une formule mathématique, et effectivement, c'est ce qu'on appelle des formules géométriques. Et une fois qu'on a une formule comme ça, on peut par exemple calculer en faisant une estimation qu'au bout de combien de temps la moitié de la population sera touchée. Et là, c'est à peu près 5 ans. Alors Bernoulli, il a en fait été plus loin. Ses modèles, ils étaient plus perfectionnés que ce que j'ai expliqué là. Il supposait un temps continu. Il essayait de prendre en compte le fait que les contaminations, l'évolution du nombre de cas, c'était tout au long de l'année. Et il obtenait des formules exponentielles et non géométriques. Mais en tout cas, l'importance de son travail, c'est qu'il a montré la voie pour ce type d'études. Alors, comment la variole a-t-elle été finalement vaincue? Eh bien, pas tout de suite. D'abord, la pratique de Jenner, j'ai dit qu'elle avait annulé le risque de contaminer quelqu'un avec la variole par rapport à la variolisation, mais elle n'a pas annulé tous les risques. On ne connaissait pas la sepsie, on utilisait la même seringue pour vacciner tout le monde, et puis même, c'était pire que ça, c'est-à-dire qu'ils ne se trimballaient pas avec une génisse infectée à chaque fois, donc ils vaccinaient une personne et ils utilisaient cette personne comme réservoir à vaccin pour vacciner tout un village après ou une autre localité. Donc, vous voyez qu'il y avait des tas de risques qu'ils ne connaissaient pas à l'époque. Ils pouvaient refiler la syphilis, etc. Et les risques, peut-être qu'ils les connaissaient pas, mais ils étaient quand même un peu détectés parfois. Et donc, il a fallu du temps avant que ça se sécurise, cette pratique. Et puis, il y avait d'autres problèmes. Il y avait des problèmes politiques. J'ai dit que les Bourbons étaient opposés à la variolisation. Il y avait des obstructions de la part des milieux aristocratiques et religieux. Il y a une partie des religieux qui disaient « Non, c'est à Dieu de décider qui tombe malade, c'est la main de Dieu, et l'homme n'a pas à intervenir là-dedans. » Et donc, ils s'opposaient à ce type de pratique médicale. Puis, il y avait des problèmes politiques d'un autre ordre. L'Europe était en guerre tout au long du XVIIIe siècle. Après la Révolution française, il y avait encore plus de périodes de guerre. Et quand une découverte était faite en Angleterre, ce n'était pas si rapide que ça à ce qu'elle soit diffusée sur le continent. Voilà. Puis il y avait des problèmes politiques, soit de retard ou de manque de volonté des pouvoirs publics, soit de moyens économiques. Cela dit, des campagnes de vaccination massive ont fini par être mises en place, et la variole a fini par être vaincue en France dans les années 1914 à peu près. Il y a encore quelques cas isolés de petits noyaux épidémiques qui sont vaincus tout de suite, parfois importés jusqu'après 45, mais présentes en permanence dans la population. Ça s'arrête à peu près à la guerre de 14. Dans les pays du tiers-monde, c'est une autre affaire. Il y avait de gros soucis évidemment économiques, mais aussi des soucis culturels, sociaux. Les gens n'étaient pas sédentaires. Il y avait une méfiance parfois bien légitime vis-à-vis des autorités. Donc, il a fallu faire autrement. Donc, la variole, elle a été vaincue par d'autres stratégies que les campagnes de vaccination massive. Et c'est d'ailleurs d'autres techniques médicales pour isoler les cas, pour isoler les foyers qui réapparaissaient, qui ont été développées. Et notamment, le père de ces campagnes-là s'appelle Donald Anderson. Malgré les difficultés, elle a quand même été vaincue, au point que elle soit déclarée disparue de la surface du globe en 1979. La variole, c'est pas une maladie présente chez des animaux qui pourrait repasser à l'homme, donc on considère que la variole, elle a été vaincue définitivement. Elle existe encore dans quelques labos, mais en tout cas, elle est vaincue définitivement en 1979. Donc, pour conclure, un virus qui est un ennemi microscopique comme celui de la variole, l'humanité a réussi à le vaincre, elle a développé des ressources pour ça, mais vous avez vu sur les délais que parfois les problèmes politiques, sociaux, finalement sont des obstacles aussi importants que les problèmes liés au virus lui-même. Et on le constate d'ailleurs aujourd'hui avec le coronavirus. Cela dit, c'est quand même réconfortant. L'humanité, elle sait trouver les moyens d'étudier ces ennemis-là, de les combattre, de les comprendre, de les éliminer. Et c'est pas que par la recherche biologique, mais c'est tous les corps de métier des sciences, et y compris les mathématiques, qui parfois peuvent collaborer pour vaincre un ennemi comme la variole.